I was doing just fine.
J'allais très bien. Jusqu'à ce que j'ai vu ces larmes dans les yeux de ces jeunes participants au chœur. Ces larmes sont un sermon beaucoup plus éloquent. Levant les yeux au-dessus de la berge, par-delà les foules impatientes qui voulaient se faire baptiser par lui, Jean-Baptiste vit au loin son cousin, Jésus de Nazareth, avançant résolument vers lui pour faire une demande similaire. Avec révérence, mais suffisamment distinctement pour être entendu des personnes se tenant à proximité, Jean exprima l'admiration qui nous émeut. Encore 2 millénaires plus tard, voici l'agneau de Dieu. Il est intéressant que le précurseur de Jésus, annoncé prophétiquement depuis longtemps, ne l'ait pas appelé Jéhovah ou Sauveur ou Rédempteur ou même Fils de Dieu, titres tous pertinents. Non, Jean choisit l'image la plus ancienne et peut-être la plus communément reconnue dans la tradition religieuse de son peuple. Il utilisa celle de l'agneau sacrificiel, offert en expiation pour les péchés et les chagrins d'un monde déchu et de toutes les personnes déchues qui le peuplent. Permettez-moi de raconter une petite partie de cette histoire. Après avoir été chassés du Jardin d'Éden, Adam et Ève avaient devant eux un avenir accablant. En nous ouvrant la porte de la condition mortelle et de la vie sur terre, ils s'étaient refermés, celle de l'immortalité et de la vie éternelle. Du fait d'une transgression qu'ils avaient sciemment choisi de commettre, pour nous, ils faisaient maintenant face à la mort physique et à l'exil spirituel, séparés à tout jamais de la présence de Dieu. Que devait-il faire? Y aurait-il une solution à cette situation difficile? Nous ignorons la quantité d'instructions reçues dans le jardin qui leur a été permis de se souvenir. Par contre, ils savaient qu'ils devaient, de manière régulière, offrir un sacrifice à Dieu, un agneau pur et sans tache, le premier-né mâle de leur troupeau. Plus tard, un ange vint expliquer que ce sacrifice était une préfiguration de l'offrande qui serait faite en leur nom par le Sauveur du monde qui devait venir. L'ange dit, c'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père qui est plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. Par bonheur, il y avait une issue. Et une issue vers le haut. Lors du conseil prémortel dans les cieux, Dieu a promis à Adam et Ève, et à nous tous, que nous recevrions l'aide de celui qui serait le fils premier-né du Père, pur et sans tache, l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, comme l'apôtre Jean le décrirait plus tard. En offrant leurs propres petits agneaux symboliques, Adam et sa postérité exprimaient leur compréhension et leur dépendance vis-à-vis du sacrifice expiatoire de Jésus loin. Plus tard, le tabernacle dans le désert deviendrait le cadre de cette ordonnance, et après cela, ce serait le temple que Salomon construirait. Malheureusement, comme tant de parties de l'Ancien Testament le révèlent, cette offrande rituelle d'agneau sans tache n'a pas très bien fonctionné comme symbole de repentir sincère et de vie pleine de foi. La détermination morale qui aurait dû accompagner ces sacrifices durait parfois moins de temps qu'il n'en fallait pour que le sang sèche sur les pierres. En tout cas, Elle n'a pas duré suffisamment longtemps pour empêcher un fratricide dès la première génération, quand Caïn tua son frère Abel. Avec tant d'épreuves et de problèmes se perpétuant pendant des siècles, il n'est pas étonnant que les anges des cieux aient chanté de joie quand enfin Jésus est né. Le Messie lui-même depuis longtemps promis. Ensuite, après son bref ministère dans la condition mortelle, cet agneau pascal le plus pur de tous a préparé ses disciples à sa mort, en instituant l'ordonnance de la Sainte Cène, forme plus personnelle de l'ordonnance qui avait été instituée à l'extérieur d'Éden. Il y aurait quand même une offrande. Elle comprendrait quand même un sacrifice. Mais son symbolisme serait plus profond, beaucoup plus introspectif et personnel que l'effusion du sang d'un agneau premier-né. Aux Néphites, après sa résurrection, le Sauveur a dit « Vous ne m'offrirez plus l'effusion du sang. Vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, repentez-vous et soyez sauvés. » Mes frères et sœurs bien-aimés, avec le nouvel accent mis sur l'apprentissage de l'Évangile au foyer, il est crucial de nous souvenir qu'on nous commande toujours d'aller au Saint-Jour du Seigneur, à la maison de prière, et d'y offrir nos sacrements. En plus de libérer du temps pour davantage d'études de l'Évangile au foyer, la modification de nos horaires du dimanche a aussi pour but de simplifier le programme des réunions afin de mettre, comme il se doit, l'accent sur l'ordonnance de la scène du Seigneur, le point de mire sacré et reconnu de notre culte hebdomadaire. Nous devons nous souvenir de la manière la plus intime possible que le Christ est mort d'un cœur brisé, assumant totalement seul les péchés et les chagrins de l'ensemble de la famille humaine. Dans la mesure où nous avons contribué à cet accablement fatal, un tel moment exige notre respect. Aussi, on nous recommande d'arriver à l'avance et dans le recueillement à notre réunion, habillés convenablement pour participer à cette ordonnance sacrée. Les habits du dimanche ont un peu perdu de leur signification à notre époque. Et par respect pour celui en la présence duquel nous venons, nous devons réinstaurer cette tradition de présentation et de tenue vestimentaire quand et là où nous le pouvons. Quant à la ponctualité, un retard sera toujours gracieusement accordé à ces chères mères qui, traînant derrière elles enfants, céréales et sacs de couches dans un désordre merveilleux, ont la chance d'avoir réussi à venir. De plus, il y en aura toujours qui trouveront immanquablement leur bœuf embourbé le matin du sabbat. Nous disons cependant à ce dernier groupe qu'un retard occasionnel est compréhensible, mais que si le bœuf est dans la boue tous les dimanches, alors nous leur recommandons vivement de vendre le bœuf ou de combler le bourbier. Dans cette même veine, je vous implore, en ma qualité d'apôtre, de réduire le bruit dans le sanctuaire que sont nos églises. Nous aimons beaucoup discuter ensemble, et c'est bien. C'est l'une des joies de notre présence à l'église, mais cela ne doit pas se faire dans l'endroit spécialement consacré au culte. Je crains que les visiteurs d'autres confessions ne soient choqués par ce qui peut parfois être une irrévérence bruyante dans un cadre qui devrait se caractériser par la prière, la révélation et la paix et les cantiques. Peut-être que les cieux sont un peu choqués, eux aussi. La spiritualité de nos réunions de Sainte-Seine s'améliorera si les officiers présidents sont sur l'estrade longtemps avant qu'elle ne commence, écoutant le prélude musical et montrant avec recueillement l'exemple que nous devons suivre. Si les personnes présentes sur l'estrade bavardent, ne soyons pas surpris de voir les membres dans l'Assemblée bavarder. Nous félicitons les épiscopats qui éliminent les annonces qui nuisent à l'esprit de notre culte. Pour ma part, je ne peux imaginer un prêtre comme Zacharie, là dans l'ancien temple du Seigneur, et sur le point de prendre part au seul et unique privilège sacrificiel qu'il aura dans sa vie. S'arrêter, je ne peux pas l'imaginer, s'arrêter devant l'autel pour nous rappeler qu'il ne reste que plus que 6 semaines avant telle ou telle activité locale et qu'il faut s'y inscrire rapidement. Frères et sœurs, cette heure ordonnée du Seigneur est la plus sacrée de notre semaine. Par commandement, nous nous réunissons pour l'ordonnance la plus universellement reçue dans l'Église. C'est en souvenir de celui qui a demandé si la coupe qu'il était sur le point de boire pouvait s'éloigner, mais qui a persévéré parce qu'il savait que pour notre bien, elle ne pouvait pas s'éloigner. Cela nous aidera. Si nous nous rappelons qu'un symbole de cette coupe est en train d'arriver lentement vers nous, le long de la rangée, à ce moment précis. Et porté par un garçon de 11 ans. Lorsque l'heure sacrée de présenter notre don sacrificiel au Seigneur arrive, nous avons nos propres péchés et faiblesses à résoudre. Mais nous risquons de mieux parvenir à une telle contrition si nous sommes attentifs aux autres cœurs brisés et esprits affligés qui nous entourent. Assis dans la salle se trouvent des personnes qui ont peut-être pleuré de façon visible ou en silence pendant tout le cantique de Sainte-Seine, pendant les prières de ces prêtres. Ne pourrions-nous pas y être attentifs et offrir notre petite miette de réconfort et notre minuscule gobelet de compassion pour ces personnes, ou pour le membre en difficulté qui n'est pas à la réunion et qui, sans une action rédemptrice de notre part, n'y sera pas la semaine prochaine non plus, ou pour nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de l'Église du tout, mais sont nos frères et sœurs. La souffrance ne manque pas dans ce monde, dans et hors de l'Église. Alors, regardez dans n'importe quelle direction et vous trouverez quelqu'un dont la douleur semble trop lourde à porter et dont les chagrins semblent ne jamais prendre fin. Une façon de nous souvenir toujours du Seigneur serait de nous joindre au grand médecin dans sa tâche interminable, consistant à relever les personnes qui sont accablées et de réconforter celles qui sont désemparées. Chers amis bien-aimés, en nous unissant chaque semaine à travers le monde, dans ce que nous espérons être une reconnaissance de plus en plus sacrée du noble don expiatoire du Christ envers tout le genre humain, puissions-nous apporter à l'autel de la Sainte-Seine, pour son sacrifice, plus de compassion. Puis, tandis que nous méditons, prions et renouvelons nos alliances. Puissions-nous retirer de ce moment sacré plus de patience pour supporter tout, plus d'adoration pour la délivrance. Je prie pour que chacun de nous ait cette patience, cette gratitude, cette sainteté, cette espérance. Je prie pour vous tous, au nom de celui qui a rompu le pain précieux du pardon et versé le vin béni de la rédemption. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, merveilleux, miséricordieux et saint. Amen.